Bonjour et bienvenue à tous à cette première émission de la série Dialogue avec Jean-Marc Berthoud, qui est présentée par Didier Herne. Jean-Marc Berthoud est un écrivain et un penseur réformé évangélique. Au cours de sa longue et fructueuse vie d'écrivain, il a publié un grand nombre d'articles et de livres sur des sujets variés, tels que l'histoire de l'Église, la vision chrétienne de la politique, l'éducation chrétienne, la théologie de l'Alliance, le créationnisme, parmi tant d'autres. Il a été éditeur du magazine chrétien Résister et construire, ainsi que d'une série de livres intitulés Messages, et il a dirigé pendant de nombreuses années une librairie chrétienne à Lausanne où il réside. Bienvenue, Monsieur Berthoud. Je suis ravi que vous soyez là.
Enchanté moi-même.
Aujourd'hui, nous aimerions en savoir plus sur cet homme, Jean-Marc Berthoud, et sur son passé familial. Dieu dirige nos vies de la manière la plus merveilleuse qui soit. Non seulement pendant notre vie, mais avant même notre naissance, dans sa providence, il prépare l'environnement qui nous entourera pendant nos années de formation. Dieu se sert de nos parents, de notre formation, pour nous préparer à la mission de notre vie selon son plan. Le plus merveilleux est que Dieu utilise même la faiblesse des êtres humains pour son dessein éternel. Monsieur Berthoud, vos deux parents étaient des chrétiens convaincus, prêts à sacrifier leur vie pour le salut des autres en tant que missionnaires en Afrique. Pouvez-vous nous décrire brièvement l'histoire familiale de votre père et de votre mère?
Je suis enchanté que l'émission prenne ce tour dès le départ. Parce que il me semble que l'œuvre de Dieu se fait toujours sur une longue durée et contient les bénédictions de l'Alliance divine. C'est-à-dire que nous sommes au bénéfice de la foi de nos pères. Alors, commençons par la famille de mon père. Mon père, Alexandre Léon, est né en 1904 et ses parents avaient une vie de piété remarquable. Son propre père, c'est-à-dire mon grand-père, avait été toute sa vie engagé dans un combat chrétien très important, d'abord comme agent de la Croix Bleue, c'est-à-dire d'une organisation qui lutte contre l'alcoolisme, et puis plus tard comme officier de l'armée du salut. Pourquoi agent de la Croix Bleue? Je pense que c'était un problème qu'il y avait dans la famille. Son propre père était très attaché à l'alcool et savait conduire bien des problèmes, et ça sans doute conduit aussi à la conversion de mon grand-père. Maintenant, du côté de sa famille, son épouse, Marie Abel, était d'origine Cévenole. C'était une institutrice très capable. Elle avait une formation catéchétique réformée, traditionnelle, calviniste. C'était en quelque sorte une huguenote. Et ils se sont mariés et ça a formé un couple très solide, qui a eu trois garçons, dont tous les trois sont devenus pasteurs, et une fille qui est décédée dans les années 1930. Ça, c'est pour mes grands-parents. Maintenant, du côté de ma mère, mon grand-père Charles Bourquin était un homme très brillant, très capable, mais il avait aussi une volonté d'être missionnaire. Il est parti en Afrique, au Mozambique d'abord, puis ensuite en Afrique du Sud. Et puis, il avait une double vision missionnaire. C'était une mission où il prêchait l'évangile, mais en même temps, il prêchait, en fait, la conversion des Africains à la culture occidentale. Il avait aussi pas mal d'idées libérales. Ils ont eu aussi 5 enfants. Et ce qui était remarquable dans cette famille, c'est ma grand-mère, qui avait une foi très simple, très profonde, paisible, et ça a été l'influence dominante de la famille. Les 5 enfants sont devenus chrétiens.
Même s'il y avait beaucoup de zèles chrétiens dans votre famille, le libéralisme théologique du début du XXe siècle a eu un impact sur la foi de vos ancêtres. Quels moyens a Dieu utilisé pour garder leur foi?
Alors je pense en particulier à mon père. Mon père était une personnalité très vive, très chaleureuse, active. C'était aussi une intelligence supérieure. Et il était très tôt... D'abord, il voulait être vétérinaire, puis après ça, il a compris que c'était beaucoup mieux de s'occuper des êtres humains et de leur âme. Alors, il a fait des études de théologie à l'université de Neuchâtel. Mes deux parents étaient d'origine de la région du Jura. Mon père du côté du Jura neuchâtelois, ma mère du côté du Jura bernois. Et mon père alors a fait ses études à Neuchâtel, qui était à l'époque une faculté fortement libérale, c'est-à-dire le miracle n'existait pas. Et mon père a été, malgré la foi qu'il avait déjà reçue de sa famille, qui était très fortement chrétienne, et une vocation véritable, a été fortement marquée par le libéralisme. Dieu a trouvé une solution à cela dans sa mère, sa propre mère. Parce que quand ses parents sont venus à la retraite, il n'y avait pas d'assurance vieillesse, il n'y avait pas de pension qui était liée ni à la Croix Bleue ni à l'Armée du Salut. Et mon père a accueilli ses parents, il était célibataire encore, il a accueilli ses parents dans la cure des deux petits villages de Corgémont et de Cortébert où il était pasteur. Et il a aménagé des locaux pour mes grands-parents, et il a même suscité un travail pour lui où il pouvait vendre des tisanes et du thé à ses anciens paroissiens, on pourrait dire, qui étaient sortis de l'alcoolisme. Et ça a été vraiment une très grande bénédiction pour mes grands-parents de cette situation. Mais alors, ma mère venait au culte écouter son fils. Elle remarquait des influences libérales dans ses sermons. Et après le bon repas du dimanche, ils allaient faire une petite promenade. Le grand-père était derrière avec la maman, avec les petits-enfants, tandis que mon père se promenait en avant avec sa mère. Et sa mère corrigeait son sermon. Et à force de corriger son sermon, elle a ramené son fils à des convictions essentiellement réformées et calvinistes. Ça, c'était pour mon père. Du côté de ma mère, eh bien, c'est sa mère qui avait une foi paisible et profonde, qui a été beaucoup plus forte que le rationalisme de son mari.
Pourquoi votre père voulait-il devenir un missionnaire?
Oui, parce qu'il avait la soif de la prédication de l'Évangile. Il voulait le salut des âmes. Et comme pasteur dans ces deux petites paroisses, je donne juste un exemple, que à la fin des années 1930, il y avait une étude biblique dans sa paroisse, c'est pas des grandes paroisses, il y avait 120 personnes à l'étude biblique. Alors il avait une grande soif d'évangélisation, et il faisait venir toutes sortes de groupes pour que l'évangile soit prêché dans le vallon de Saint-Imier. Et ça a certainement suscité pas mal de conversions. Il avait cette soif, il fallait que l'évangile soit porté aux perdus. Et il avait à cette époque-là plusieurs sociétés missionnaires qui avaient été fondées dans le but de prêcher l'évangile dans le monde entier, dont la mission suisse et la mission de Paris, et ça l'a beaucoup intéressé. C'est comme ça qu'il a d'ailleurs rencontré ma mère, parce qu'un groupe sud-africain qui chantait dans les églises pour annoncer l'évangile est venu... à Corgémont, était invité par lui, et voilà, ma mère était dans ce groupe, et le mariage s'est très vite présenté comme la nécessité de la vie de ces deux personnes. Voilà, c'est comme ça qu'il avait cette soif. Et pourquoi missionnaire? Bien, parce que ma mère lui a beaucoup parlé des besoins en Afrique du Sud, et c'était devenu très clair pour lui qu'il devait retourner dans le pays où la famille de ma mère avait été élevée.
Quand vous étiez enfant, à quoi ressemblait la vie quotidienne dans une famille de missionnaires en Afrique du Sud?
Alors, je dois dire que nous avions une vie de famille particulièrement harmonieuse et heureuse. C'est pas qu'il n'y avait pas des tensions, des fois, toute famille a des tensions, mais on savait que c'était un endroit de sécurité et de paix, de tranquillité que la famille. Moi, j'ai toujours aimé ma famille. Pour moi, là, c'était la plus belle chose au monde. Par exemple, j'ai énormément aimé le roman de Tolstoï, Guerre et paix, parce qu'on y voyait des familles orthodoxes qui ressemblaient à celles de mon père, de mes parents. Alors, C'était une vie de famille ancrée sur Dieu et sur la parole de Dieu. Nous avions deux cultes de famille chaque jour. Normalement, mon père célébrait le culte le soir avec lecture de la Bible, méditation un peu de la Bible et prière essentiellement. Le matin, c'était ma mère qui nous faisait des lectures, une petite lecture biblique avant de prier, avant qu'on aille à l'école. Et ça donnait un ton à la famille que je suis heureux d'avoir pu perpétuer dans ma propre famille et aussi de voir que mes enfants le perpétuent aussi. Alors c'est très très beau de voir ça, de voir cet héritage qui va de génération en génération. Et alors la vie de famille, on devait s'occuper à des tâches qui étaient en rapport avec la situation missionnaire qui était la nôtre. Par exemple, on avait des grands jardins pour produire des légumes pour l'école biblique qui était attenante à notre maison. Et bien on travaillait dans le jardin. Et on devait, plus tard, quand on était à Johannesburg, chacun avait sa tâche dans la maison. C'était des choses qui étaient acceptées. La vie était aussi très hospitalière. On recevait, malgré le fait que nous étions cinq enfants et les parents, l'accueil était généreusement octroyé à ceux qui passaient. Et des fois même d'une manière dangereuse pour mon père, parce que il était interdit de loger des Noirs dans notre quartier. Et il le faisait de temps en temps quand c'était nécessaire. Alors, on avait aussi l'impression que la foi chrétienne était une chose très importante et que le combat de mon père pour fortifier les églises de pasteurs africains était une chose d'une grande valeur.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le travail de votre père en tant que missionnaire et pasteur?
Premièrement, l'amour de la Bible. Deuxièmement, un homme très courageux qui ne laissait pas tranquille les problèmes, qui allait au front, qui était combatif dans le bon sens. Un homme aussi assez prudent. Par exemple, quand il recevait une lettre auquel il fallait répondre et que ça suscitait une certaine irritation de sa part, il répondait tout de suite, puis ensuite il déchirait sa réponse, attendant quelques jours pour répondre d'une manière plus calme. C'était un homme assez joyeux. Ma mère était une très très bonne maman. Elle avait la main un peu plus dure quand elle nous donnait des fessées comme mon père. On la craignait un petit peu plus de ce côté-là. Mais je trouve que la vie de famille était très heureuse. On a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes entre les différents membres. On était loin d'être parfaits. Pour moi, l'estime de mes parents était peut-être la chose la plus importante. Je me souviens qu'à l'école, je n'avais pas fait un devoir. Et puis un professeur m'a dit, mais qu'est-ce que penserait votre père de votre mensonge? Oh, alors là, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui.
Même si vous avez vu le bon exemple de vos parents, vous avez commencé à vous éloigner. Pourquoi cela?
Premièrement, je croyais dans la foi d'un enfant ce qu'on m'enseignait, mais je ne l'avais pas vraiment approprié pour moi-même qu'on m'en doit le faire. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, une reconnaissance de son propre péché. Et ça, je n'avais pas encore eu. J'étais d'accord, mais ça ne me travaillait pas profondément. Deuxièmement, cet éloignement est venu surtout à l'université. J'avais une grande admiration pour mon frère aîné, qui était très brillant, très capable. Et lui a été séduit par l'humanisme de l'université assez rapidement. Et ça me semblait pas dangereux. On ne se rendait pas compte du danger de tout cela. Mon père s'en rendait un peu compte et à deux reprises, il m'a dit d'une manière extrêmement ferme que il préférait infiniment que je sois un ouvrier qu'un intellectuel pourri. Et ça m'a resté, ça a été comme une sorte de prophétie qui a marqué le caractère ultérieur de ma vie professionnelle.
Vous avez commencé votre formation littéraire en Afrique du Sud. Quels ont été les moments les plus mémorables de votre séjour là-bas?
Oh, il y avait beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé ce pays, c'est un pays magnifique, c'était en fait... Mon attachement à ce pays a été très fort. Sur le plan de la formation, je dois honorer deux professeurs que j'ai eus à l'université qui m'ont marqué pour toute ma vie. En particulier un professeur d'histoire qui s'appelait Yann Marais, un descendant de d'Huguenots. Et il m'a permis de découvrir qu'il fallait utiliser le langage avec la plus grande précision. Et il avait un séminaire où il posait des questions tellement précises sur l'usage des mots qu'on était obligé de refaire sa copie. Et puis le deuxième, c'était un professeur très capable, que j'aimais beaucoup, un professeur juif qui s'appelait Langman, pour lequel je suis très reconnaissant pour lui. Il avait un séminaire où il fallait comparer des poèmes sur les mêmes thèmes, montrer la force des poèmes, le rapport entre la forme et le fond et tout ça. Mais en même temps, il fallait finalement établir, les poèmes étaient, il n'y avait pas d'indication de date ni d'auteur. Il fallait finalement établir un jugement sur ces poèmes. Ça m'a énormément aidé à comprendre que l'aboutissement de la réflexion doit arriver toujours à un jugement sur la valeur de ce que nous avons compris.
N'avez-vous jamais douté que cette nouvelle direction de votre vie était la bonne?
Non, ça s'est graduellement infiltré en moi. Je trouvais que tout ça, c'était bien. Je ne voyais pas d'opposition à la vie de ma famille. J'étais pas éclairé. J'étais graduellement séduit par le caractère magnifique de la culture, de la civilisation et tout ça. L'histoire, la littérature. Non, c'était graduel. C'est une séduction qui s'est fait petit à petit et qui n'allait pas du tout de pair avec une hostilité contre la foi de mes parents. Il n'y avait pas de rupture. La rupture est venue beaucoup plus tard, quand je m'étais engagé dans ce chemin périlleux, au point où arrivait à une impasse dans ma vie complète. C'est à ce moment-là qu'il y a Dieu, dans sa miséricorde, intervenu. Moi, je ne le cherchais pas. Et il m'a arrêté dans ma vie. Mais de ça, on parlera une autre fois.
Après avoir terminé vos études en Afrique du Sud, vous êtes allé à Paris pour étudier à la Sorbonne. Quel était le but de vos études là-bas?
Premièrement, j'avais un thème très important, c'était le génocide congolais entre 1884 et 1910, disons. Dans le bassin du Congo, il y a eu un génocide de plus de 5 ou 6 millions d'Africains. Par effet de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie sauvage. Une économie sans aucune règle ou sans aucune restriction administrative ou politique ou de règles morales. Et ça, j'ai étudié ça et ça, je voulais vraiment comprendre ça. Mais le but, évidemment, était de devenir professeur d'université, comme l'ont été mes deux autres frères. C'était vraiment le but, c'est d'arriver à faire un doctorat pour arriver à une profession universitaire.
Lors de vos études, vous avez découvert que dans la culture européenne, il y avait deux aspects. En fait, la culture de paraître et la culture de l'être.
Oui, c'est tout à fait ça, l'opposition entre la culture du paraître et la culture de l'être. Ça s'est sorti tout à fait de mes recherches historiques. Parce qu'il fallait comprendre comment ça se faisait qu'une civilisation qui se disait encore chrétienne, pas comme aujourd'hui, pouvait tolérer ou même favoriser des actions criminelles bien avant encore ce qu'on appelle le premier génocide occidental, c'était l'extermination par les Turcs des Arméniens. Mais avant cela, il y avait déjà ça et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Il m'a fallu réviser un peu toute ma vision de l'histoire. Parce que je voulais savoir comment on en est arrivé là. C'était décisif pour moi. J'ai découvert qu'en fait, il y avait deux styles. Un style qui représentait l'expression de ce qui était notre être. Un autre style qui était un style de cours, un style d'apparence, qui nous permettait d'exprimer le paraître. On pourrait voir la même chose aujourd'hui, le paraître serait certainement la télévision, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui reste de la culture de l'être. Mais on pourrait dire, moi je voyais une différence fondamentale entre la civilisation agricole, où l'être était absolument central, la civilisation artisanale, et puis ensuite le commerce international, le commerce de luxe, la vie extraordinairement sophistiquée des gens riches, etc. Et je voyais un contraste complet entre ces deux choses. En fait, je ne comprenais pas que la culture de l'être était liée à l'ordre de la création. À cette époque-là, je ne comprenais pas ça du tout. Et que c'était lié, en fait, finalement, au rapport avec celui qui est l'être lui-même, Dieu. Et que cette culture du paraître, qui me séduisait aussi, mais que je rejetais en même temps, était une culture qui était nihiliste, pour finir.
Voilà, finalement, il y avait un glissement dans votre foi, dans votre vue sur le christianisme. Est-ce que vous pouvez le décrire? Comment vous êtes arrivé à vos conclusions?
Il n'y a pas eu de conclusion, dans un sens. Parce que ce glissement allait de pair avec le maintien d'un sens moral très fort. J'ai jamais douté de la réalité de l'importance d'une loi immuable de Dieu. Aussi, je dois dire que mes admirations pour une civilisation naturelle, moins sophistiquée, plus liée à des réalités de la vie quotidienne, étaient signe en fait d'une persévérance de mon ancienne façon de ce que j'avais appris dans mon héritage familial. Mais en même temps, il y avait une indifférence par rapport à Dieu. J'étais pas hostile à Dieu. C'était bien pire que ça. C'était pour moi insignifiant. Je respectais mes parents pour leur foi, mais c'était bon pour eux. Mais pour moi, j'avais un autre chemin à vivre. Et ce chemin allait dans le culte de ma propre sensibilité, et qui conduisait à un orgueil énorme, un mépris en fait pour cette civilisation qui était devenu tellement éphémère et artificiel, etc. Mais je ne comprenais pas du tout que le problème se trouvait en moi.
On est arrivé à la fin. Je vous remercie, Monsieur Pertou, de nous avoir donné un bref aperçu de votre histoire familiale, du temps de votre formation.
Et merci à vous. C'est un grand plaisir de pouvoir bavarder ainsi de choses si lointaines.
Chers auditeurs, si cela vous a intéressé, veuillez nous rejoindre pour la prochaine émission où nous, si Dieu le veut, entendrons parler de ce qui s'est passé après sa formation académique, sa conversion, son mariage avec sa femme Rosemary et le début de son ministère. Merci pour votre attention.